Gloire à Dieu. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Que le nom du Seigneur soit véritablement béni ce soir. Merci Alexandre pour ces chants. J'aurais préféré qu'ils durent encore plus longtemps. On était bien là, à louer le Seigneur, à répandre son cœur aussi devant Dieu, parce que nous le croyons, oui, le Seigneur est là, présent par son esprit. Et j'aimerais, avant d'aller plus loin, que nous puissions introduire ce moment par un court verset biblique dans 1 Samuel au chapitre 16. Ne le cherchez pas, je vais le lire au verset 7. Je vous demande juste de l'écouter. Et l'Éternel dit à Samuel, Samuel son prophète, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, » il parle d'un homme ici, « car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et dans le déroulement de cette histoire, ensuite, nous verrons que le prophète va être amené à ne plus regarder à l'apparence des hommes qui vont être en face de lui, mais à faire attention à ce que le Seigneur va lui dire pour lui désigner qui sera le prochain roi d'Israël. Et ce soir, ce Dieu qui est là avec Samuel dans la Bible, il est aussi là, présent par son esprit. Et le Seigneur regarde à nos cœurs ce soir. Dans quel état de cœur nous sommes venus? Comment nous vivons chaque jour? Le Seigneur sait ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier pour nous, pour chacun de nous. Et il voit comment nous sommes venus. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne veut pas que nous ressortions de ce lieu comme nous sommes arrivés. Alors je ne sais pas ce que le Seigneur peut faire pour vous, mais nous l'avons chanté, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit, c'est-à-dire il plonge dans l'Esprit. Et je le crois, nous devons venir à Dieu ce soir par la foi, en lui faisant confiance. Et en tout cas, tout le message qui va être annoncé ce soir, ce sera ça. Faire que notre foi grandisse, que notre foi soit examinée aussi, qu'elle soit affermie, qu'elle puisse être perfectionnée, qu'en sortant de ce lieu, nous puissions avoir cette soif que notre foi grandisse en Dieu, que notre confiance en Dieu grandisse. Amen. Nous allons aller dans l'Apocalypse, au chapitre 3, et au verset 14. Nous allons lire ce que Jésus dit à la dernière église qu'il a, à l'église de Laodicée. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. À celui qui vaincra. Le Seigneur termine ses paroles comme ça. À celui qui vaincra. On pourrait se dire, vaincre quoi? Vaincre qui? De quoi il est question ici? Alors, nous allons voir dans la conclusion ce dont il est question, à mes yeux. Mais souvent on s'accorde sur l'interprétation de ces écrits aux églises pour dire que l'église de Laodicée peut être interprétée comme l'église de la fin des temps. C'est une église qui, malheureusement, une certaine église qui ne se prépare pas à la rencontre de son Dieu. Et il y a quelque chose de terrible dans le constat que le Seigneur fait de cette église. Je ne parle pas de ces paroles fortes, je te vomirai de ma bouche. Mais il y a quelque chose de fort qui sort de ce récit. Au verset 17, il y a là quelque chose qui sort de la bouche de cette église. Je m'aimerais me dire même de cette personne. Nous avons dit que le Seigneur regarde au cœur ce soir. Et parfois, nous disons des choses en nous-mêmes, ça n'a pas beaucoup de décibels, mais Dieu les entend. Et j'aimerais que nous puissions le relire. Et je n'ai besoin de rien. Et je n'ai besoin de rien. Et pourtant, le constat va être là. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. C'est terrible quand quelqu'un a fait une expérience avec Dieu, est censé, puisque c'est une église, est censé avoir connu la repentance, à devoir donner sa vie au Seigneur Jésus, l'avoir suivi, et puis faire ce constat à un moment donné, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur pour que tout à coup, celui qui dépendait, celle qui dépendait du Seigneur, n'a besoin de rien. Alors je ne sais pas si j'arrive à vous le faire sentir ce soir, ce n'est pas grave, mais j'aimerais qu'au travers de ce que nous allons lire tout à l'heure, nous puissions nous poser cette question. En ce moment, comment je vis? J'ai chanté des choses belles. Oh la joie immense, infinie. Immense, infinie, c'est fort ce que nous avons chanté. La joie, la joie. Mais je l'ai chanté, mais est-ce que je vis vraiment ces choses? Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi-même, j'ai été amené à m'interroger sur ma confiance en Dieu, sur ma foi, sur ma façon de vivre l'Évangile. Et parfois, on peut être amené à être en décalage avec ce qu'on chante. Alors, ça peut être plus ou moins perceptible. Parfois, on s'habitue à une certaine marche avec Dieu. Et parfois, ben, on laisse des choses là dans sa vie et on ne se rend même pas compte tout à coup qu'on est devenu autosuffisant, qu'on ne dépend plus de la grâce de Dieu, on va à l'église, on fait des choses pour Dieu, etc. Mais au fond, il n'y a plus ce besoin, comment dire, profond et fort dans le cœur de dépendre de Dieu. Il y a là comme un cri qui là, je me suis enrichi. Qui m'a enrichi? Qui m'a enrichi? Si ce n'est le Seigneur. Qui pourra dire, oui, le Seigneur fait au-delà de ce que j'ai désiré? Qui peut dire ça? Oui, il y a des petites mains qui se lèvent, je veux croire que c'est de l'humilité. Oui, et parfois le Seigneur nous a bénis, et que ce soit matériellement, spirituellement, et on s'est habitué à ces choses. Et on croit que finalement on les a méritées. La communion avec Dieu, elle s'étiole. Elle n'est plus la parole de Dieu, elle nous vivifie plus. Elle n'a plus d'action fortifiante sur notre cœur. Et puis, petit à petit, on devient tiède. Et c'est terrible, quoi. Vous avez vu ce que le Seigneur dit. On ne va pas revenir dessus. Mais ce qui est beau dans la parole de Dieu, et ce qui est beau encore là, ce soir, le 7 février à 9h moins le quart, c'est que Dieu donne le moyen de sortir de ça. Le Seigneur, il pourvoit, il donne la solution. Je te conseille. D'abord l'écoute, on l'a chanté, si je me tais. Alors ce soir, je vous propose que nous puissions écouter la parole de Dieu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, cette richesse qui n'est pas d'ici-bas. C'est une richesse qui est d'en haut. Des vêtements blancs, ça nous parle de notre position devant Dieu, de notre pureté, de notre sainteté devant Dieu. Le Seigneur veut encore nous mettre à part. Comment nous présenterons-nous quand nous serons face à lui dans ce ciel de gloire? Un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ce qu'il y a de terrible quand on marche avec Dieu claudiquant, quand on est tiède, c'est que tout à coup notre vision spirituelle, notre vue, elle baisse, elle s'étiole. Et tout à coup, on est frustré, on ne vit pas ce qu'on voudrait vivre, on voit les choses, on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, enfin selon, on est toujours là entre deux eaux, on ne sait pas si on est agréable à Dieu, si on est là, on est perdu. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous puissions acheter un collier afin que nous voyions. Et faire une application sur nos yeux. Je ne sais pas si vous avez déjà mis un collier dans vos yeux. Ouais. Ça prend un peu de temps quand même. C'est quelque chose d'assez précis. Mettre une goutte de collier dans l'œil, ça prend un peu de temps. Et ça demande une certaine précision. Ça demande un certain temps. Et la méditation que je vous propose de faire ce soir, dans quelques minutes qui restent à voir ensemble, c'est Le Seigneur nous parle de combat, et je crois que la vie, c'est un combat. Un combat qu'il faut mener par rapport aux circonstances que nous traversons. Un combat par rapport à nous-mêmes, parfois. Et le Seigneur, ce n'est pas un combat contre les autres, un combat contre la chair et le sang, mais un combat avec lui. Et ce soir, ce que je vous propose, c'est de voir si nous sommes dans la foi, si nous sommes dans cette confiance en Dieu. Mais pas le voir, comment dire, superficiellement. Prendre un temps. Peut-être pour quelqu'un, ça va être ce soir le prolongement de ce temps où on se dit souvent, par habitude, je vais prendre la Sainte-Seine et puis je vais m'examiner pour voir si je suis dans la foi. Et puis on passe un temps, c'est bien, passer un temps pour s'examiner là, le dimanche matin ou dimanche après-midi ou autre. Mais peut-être s'examiner, ça va demander un peu plus. Peut-être ce soir, dans les quelques minutes que nous avons, prendre un temps plus profond et s'examiner pour voir si nous sommes dans la foi. On peut lire dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset très connu pour certains. 2 Corinthiens, chapitre 13, une exhortation de l'apôtre Paul, verset 5. À la lumière de ce que nous venons de lire, de ce passage de la Odyssée, je crois que le Seigneur ne veut pas nous laisser de côté, ne veut pas nous laisser tiède. Il veut nous amener à être vivifiés, à être des vainqueurs. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez désapprouvés. Examinez-vous vous-même. Alors, j'aimerais vous poser une question. Tout le monde ici a déjà passé un examen, certainement. Hein ? Où est-ce qu'il veut en venir ? Un examen, ça se fait comment ? Ça, c'est selon un certain cahier des charges, oui ou non ? En fonction de l'âge de certains. Moi, j'ai des enfants qui ils sont en plein dedans, ils ont des notes, etc. Et en fonction d'une classe d'âge, on ne note pas de la même façon. L'examinateur n'attend pas la même chose d'un enfant de 6 ans, d'un enfant de 7 ans, etc. Madame Delab, qui a été prof, le sait, etc. Examiner, ça prend un certain temps. On ne s'examine pas, ce n'est pas une introspection inutile. Selon des valeurs prises au hasard, non. Quand un chirurgien examine quelqu'un, il le fait selon ce qu'il a appris, et il le fait dans le but d'améliorer la chose, etc., de voir et d'établir un diagnostic. Un agriculteur, quand il examine sa terre après la récolte, etc., il fait le constat, il y a l'hiver qui va arriver, il va amener de l'engrais, il va retourner la terre, etc. Un mécanicien, il ne va pas laisser le capot de la voiture fermé, il va dire « je vais vous examiner la voiture ». Non. Quoique ça m'est arrivé une fois, d'amener la voiture chez un mécanicien, il n'a pas ouvert le capot, il a juste branché un truc, et puis il a dit « voilà, votre voiture, elle a ça ». Et puis il y avait un devis pour 1000 euros. Et puis finalement, moi j'ai choisi d'amener la voiture chez un autre mécanicien qui a ouvert le capot et qui s'est dit « non, c'est une durite qui est plantée, donc il y en avait pour 40 d'euros ». Ce que je vous propose de faire ce soir, ce n'est pas une examination, une introspection, mais nous confronter à la parole de Dieu. C'est elle qui nous examine. C'est elle qui doit nous dire si nous sommes dans la foi ou pas. Vous êtes d'accord ou pas ? Et au travers de saintes paroles du Seigneur Jésus, on l'a dit, on l'a chanté, « Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. » Et moi, dans les évangiles, il y a des paroles du Seigneur qui sont fortes, précieuses. Parfois, on n'en mesure pas la portée. J'ai redécouvert la portée de ces paroles dernièrement. Pour moi-même, pour ma propre vie. Et je voudrais vous les partager succinctement. On ne va pas lire les 3 chapitres. Mais on va survoler, mais avec attention. Survoler avec ce désir profond de dire « Seigneur, je veux voir, je veux progresser, je veux avancer dans ma vie. Je ne veux pas être cette personne qui, à la fin, tu diras « Non, je te vomirai dans la bouche, je veux, Seigneur, puisque tu en parles ce soir, je veux saisir ta main et au travers de ce qui va être vu, au travers de ce qui va être annoncé, médité, eh bien, Seigneur, saisir cette main que tu me tends pour être délivré, pour être guéri, pour être relevé et puis pour que ma foi, si elle a été alliée sous les coups de l'ennemi, sous le fait que j'ai laissé le vieil homme en moi ressurgir et prendre toute la plénitude, Seigneur, au travers de ce que nous allons lire, Seigneur, au travers du contact avec ta parole, Seigneur, que je puisse être vivifié, que je puisse recevoir ta vie. Je propose de méditer, mais courtement, les trois chapitres de Matthieu 5, 6, 7, il s'agit du sermon sur la montagne. Des choses simples, simples, mais qui ne sont pas simplistes. Des choses que notre cœur, parfois, n'a pas envie d'entendre. Moi, ce conseil qu'on m'avait donné, le sermon sur la montagne, le fondement vraiment de la vie chrétienne, je me disais, mais je connais ça, je le vis. Et puis finalement, on se rend compte qu'on a besoin de relire ces choses et se les approprier et les écouter, les intégrer. Et vous allez voir que c'est un véritable combat. On commence. Matthieu chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je ne sais pas si vous faites attention, mais le temps ici, c'est au présent. Le royaume des cieux est à eux. C'est pour maintenant. Heureux les pauvres en esprit. Comment sommes-nous venus ce soir? Comment vivons-nous? Est-ce qu'il y a toujours ce désir d'être rempli de l'Esprit de Dieu? Nous qui sommes passés du monde à la vie éternelle avec le Seigneur Jésus, à cette vie nouvelle en lui, est-ce qu'il y a toujours ce désir d'être rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il faut insister encore? Oui, je le crois, sur ces notions de repentance, d'abandonner sa vie passée, d'avoir été éclairé par la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, par l'œuvre de la croix, et réaliser notre manque face à cette éternité sans Dieu, et puis d'avoir saisi la main de Dieu et de s'être rendu capable de dire « Seigneur, je suis pauvre, pauvre, je n'ai pas ton esprit. » Et c'est ton esprit qui vainc le monde. Heureux les pauvres en esprit, heureux maintenant. Alors, est-ce que nous avons cette joie du salut en nous? Est-ce que nous marchons, nous l'avons chanté « joyeux, 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 heureux, 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 la joie, la joie, la joie ». Mais est-ce que cette joie, elle est en nous? Je vous propose simplement d'aller dans Néhémie, au chapitre 8, au verset 10b. D'accord? C'est juste après le point virgule. « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » La joie de l'Éternel sera votre force. Mais continuons le récit. « Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. » Ne vous affligez pas. Juste avant, il est parlé de joie. La joie de l'Éternel sera votre force. Et les Lévites, ceux qui servaient dans le temple à cette époque-là, je n'ai pas trop le temps de revenir là-dessus, mais les Lévites vont dire « taisez-vous ». Cette joie, elle ne dépend pas des décibels, du rire de la bouche. Ce n'est pas cette joie-là. C'est une joie profonde, une joie d'être en communion avec Dieu, d'être agréable à Dieu, d'avoir saisi la main du Seigneur. Et cette joie, elle est là dans le cœur. Avez-vous cette joie? As-tu, mon frère, ma sœur, cette joie ce soir? Est-ce que vous l'avez perdue? Eh bien, le Seigneur se propose de vouloir vous donner encore ce soir. La joie du salut. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, on revient dans Matthieu 5. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Encore au présent, le royaume des cieux est à eux. Et pourquoi il est à nous? Parce que le Seigneur Jésus, il est ressuscité. Il est assis dans son trône de gloire, nous dit la parole de Dieu. C'est lui la tête de l'Église. Il est assis dans la gloire et nous faisons partie de l'Église. Nous sommes encore ici, bas sur la terre, une partie de l'Église est montée, mais nous sommes encore là sur la terre. Et puis, malgré tout, cette vie qui est en nous, elle est déjà dans l'éternité. Ce qui est glorieux avec le Seigneur, c'est quand nous nous réconcilions avec lui, quand nous nous sommes repentis de nos péchés, quand nous avons choisi de nous convertir à sa parole, à sa volonté, eh bien, nous passons de la mort à la vie. Et la mort, pour nous, sera un gain. Je sais qu'en disant ça, ce n'est pas facile à accepter. Mais la mort, pour nous, sera un gain. Et dès maintenant, nous avons reçu cette vie éternelle. C'est la vie véritable, frères et sœurs. La vie véritable, c'est la vie éternelle en Dieu. Et maintenant, ici-bas, sur la terre, nous pouvons la voir. La vie éternelle. Parce que tout ça, c'est réglé pour le Seigneur Jésus. La vie la plus importante, ce sera celle qui sera dans l'éternité. Et celle que nous menons ici-bas, ce n'est qu'une infime partie. Une infime partie. Mais elle va conditionner le reste. Et c'est important de prendre soin. C'est important d'être attentif à ce que nous vivons ici-bas sur la terre. C'est important de faire attention à ce que nous vivons, comment nous vivons. De faire attention à la parole de Dieu. Parce que le monde, lui, ne parlera pas de ces choses. Le monde place devant nous autre chose. Ne parle pas de l'éternité. Parle du temps présent, de ce qu'il faut prendre, de ce qu'il faut gagner maintenant. Oui ou non ? J'invente rien. On est tous, on évolue. Moi, je travaille. J'évolue comme vous dans les milieux professionnels, sociaux, etc. Et puis, on voit très bien comment la mentalité du monde peut nous toucher aussi. Cette mentalité, elle peut nous toucher. Faisons attention. Heureux, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Ces persécutions pour la justice, pas pour les bêtises que nous pouvons faire, les iniquités, les péchés, mais pour la justice de Dieu. On continue. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi. Seigneur, quel témoignage je rends actuellement. Nous avons parlé de ce qui peut nous rendre heureux ici-bas, ce qui fait notre joie profonde, ce salut, cette communion avec Dieu, le fait d'avoir été rétabli dans notre position devant le Seigneur. Mais allons plus loin, ce texte va plus loin. Le Seigneur, c'est lui-même qui parle. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que je suis le sel de l'actuel actuellement ? Est-ce que je suis la lumière du monde actuellement ? Est-ce que la lumière de la grâce de Dieu jaillit de ma vie et est-ce qu'elle se propage sur les autres actuellement ? Parfois, nous sommes tristes parce que nous savons bien que notre témoignage n'est pas en adéquation avec ce que nous croyons, ce que nous professons. Et le Seigneur, voilà, par des paroles simples, la parole, elle est simple et elle nous remet sur le tour et nous dévoile notre cœur, non pas pour nous avilir, comme je l'ai dit au début, mais pour nous ramener à vivre des choses profondes avec le Seigneur, à vivre une profonde repentance. On continue, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu pour abolir, non pour l'abolir, pardon, mais pour l'accomplir, pour accomplir la loi. » Et il y a ce passage qui m'est venu en préparant ce moment, ce leitmotiv parfois qu'on entend, nous on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et Jésus va dire, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et nous allons nous rendre compte, tout en méditant ces quelques textes, que la grâce elle est plus exigeante que la loi. Que le degré d'exigence est beaucoup plus haut. Et que le Seigneur il n'est pas venu pour abaisser le niveau. La sainteté, ce n'est pas simplement ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est aussi un comportement. Ce sont des choses à vivre, à faire, à partager, à donner, à être. Et ce n'est pas simplement ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et arrêtons avec ce leitmotiv, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce pour vivre selon une liberté qui nous amène à pécher. Mais la grâce de Dieu, elle nous pousse à la repentance. La grâce de Dieu, la bonté de Dieu envers nous, son amour envers nous, nous pousse à la repentance. Quand on voit l'amour de Dieu, on peut être amené dans son cœur, être à genoux, dire « Seigneur, tu m'as aimé tellement. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à être un bon témoignage dans ce monde. Aide-moi à partager ta parole. Aide-moi, Seigneur Jésus, à vivre ta parole. » Verset 20, « Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et tout à l'heure, nous partageons quelque chose avec quelques enseignements avec M. Olé, et il disait « Mais comment nous prêchons ?» Et je me rends compte que ce n'est pas facile de vous dire ces choses, de ne pas entrer dans le royaume des cieux, mais c'est la vérité, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Il y a des choses qui nous barrent le royaume céleste, la vie éternelle avec Dieu. Et Dieu nous parle de notre justice. Verset 23. La parole de Dieu, elle est pratique. Et on va voir que dans des domaines bien pratiques, elle nous éclaire. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens te présenter ton offrande. Amen. La justice. J'aimerais vous poser une question. Comment vivons-nous le pardon maintenant? Est-ce que c'est toujours pour nous, avec zèle, que nous allons demander pardon? Est-ce que pour nous, cette question du pardon, elle est réglée ou pas? Est-ce que nous avons réalisé que le pardon, si nous ne le vivons pas, eh bien on s'enferme. On s'enferme dans la dureté, on s'endurcit, on a un cœur qui devient amer. Et je me souviens que j'étais converti un peu depuis quelques temps. Et puis, étant dans cette salle, j'ai entendu prêcher sur le pardon. Et puis le Seigneur a amené à la lumière une situation qui n'était pas réglée avec une personne de ma famille. Et j'ai tout fait pour repousser cette parole. J'étais au fond, là-bas, sur la gauche, et je dis non, Seigneur. Franchement, non, mais ça s'est réglé. Enfin, je n'ai pas besoin de régler ça. Nous avons demandé pardon à Dieu, mais cela ne nous prive pas de réparer nos erreurs. Il y a le pardon de Dieu, il y a la repentance, mais il y a aussi la réparation de nos erreurs, d'autant que cela nous est possible. Mais voilà, j'ai capitulé. À l'époque, il n'y avait pas de portable, il y avait une cabine téléphonique à l'angle là-bas, devant la boulangerie. Je suis allé dans cette cabine téléphonique, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé, Seigneur, je dis sur ta parole, Seigneur, j'appelle et je demande. D'autant plus vraiment, je me disais, mais c'est pas moi qui ai tort dans cette situation, ça vous était moi. Mais ce n'est pas la question. Il y a cette parabole de l'ami dans Luc 18. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous aime tellement. Il n'a pas regardé si nous méritait ou pas son pardon. Et il veut qu'en retour, nous, ses enfants, nous puissions manifester aussi le pardon. Que nous ayons tort ou pas. Tout faire pour rétablir la situation. Tout faire pour qu'il y ait de nouveau cette relation horizontale. Parce que la relation verticale avec Dieu a été réglée. Tout faire pour qu'avec ceux qui nous entourent, notre prochain, la relation puisse de nouveau s'établir. Et je bénis Dieu parce que quand quelqu'un se met dans les dispositions de cœur pour lui obéir, mais sa foi dans le Seigneur, c'est valable ce soir, si nous mettons notre foi, le Seigneur est capable de préparer le cœur de la personne à qui nous devons demander pardon. Même s'il ne le fait pas, ce n'est pas grave. Mais moi, ça m'a aidé, parce que j'ai vu que le Seigneur avait préparé les choses. J'ai appelé cette personne proche, j'ai dit, voilà, telle chose, telle manière, voilà, je te demande pardon. Ah, mais c'est bon, c'est réglé, écoute, c'était que pour ça et tout ça. Et puis, ben voilà, tout a été de nouveau réglé. Et puis, il y a cette cicatrice, mais il n'y a plus le mal, il n'y a plus la douleur de la plaie, parce qu'il y a eu une blessure, là, profonde. Et ça a été réglé. Et je bénis Dieu parce que maintenant, ben, on peut vivre des choses encore en famille. Pardonnez. Verset 36 du chapitre 5. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Amen. Et pour nous aider aussi, le Seigneur dit cela. Qu'il est beau pouvoir compter sur quelqu'un. Oui, c'est oui, non, c'est non. Et du coup, bah, tout ça, ça a été l'occasion avec en famille de méditer un petit peu. Et puis pour les enfants, de faire quelques expériences. Je vais vous la raconter. On va aller d'abord au verset 39. « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. » Amen. C'est les paroles du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce n'est pas facile parfois d'écouter la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu. Et c'est elle qui nous bénit, c'est elle qui nous rend libres, nous dit les évangiles. Et je n'arrivais pas à comprendre ce verset. parce qu'on a parfois des interprétations, etc. Et puis, ben, on n'arrive pas à se faire une idée précise de cette chose. Mais c'était l'occasion de discuter avec mes enfants, tendre la joue droite, alors qu'on nous a frappé sur la joue gauche, etc. Et puis, ben, tout d'un coup, on est papa, on essaie d'expliquer la parole de Dieu à ça. Et puis, bon, ben, c'est venu, je fais court. On a partagé avec ma fille. Et ma fille, ça a été l'occasion, ce soir-là, à table, de dire « Papa, moi, j'ai reçu une gifle dans la figure. » Et j'ai senti... Vous savez, vous êtes parents, ça monte vite. Qui c'est qui t'a mis une gifle ? Mais ma copine. Parce que ceci... Alors, je dis, mais... Alors, tu veux que j'appelle sa maman, etc., pour qu'on règle la situation. Et puis, dans mon cœur, j'ai été repris. Et j'ai pensé à ce verset. Et j'ai dit, Sarah, écoute, moi, je veux bien... ne pas appeler la maman. Mais tu vois, on a lu ce verset, si quelqu'un frappe sur ta joue droite, tend lui aussi la joue gauche. Laissez-moi du temps, hein, d'accord ? Laissez-moi du temps. Eh bien, tu vois, cette joue droite que tu as reçu une gifle, pourquoi tu as reçu une gifle finalement ? Eh bien, parce que j'ai commencé à raconter que Maëlle, eh bien, elle aime quelqu'un, etc., elle est amoureuse et tout. Ah, donc tu t'es un peu moqué d'elle, quoi. Ben oui. Et j'ai reçu une gifle, papa. Et je suis en colère après elle. Et je lui ai dit, ben, tu vois ma chérie, le Seigneur, il dit ben, aussi de tendre l'autre joue. Mais cette fois, si tu ne vas pas lui tendre la joue, cette partie de ton visage qui fait le mal, tu vas lui présenter le visage qu'il aime. Tu vas lui demander pardon parce que tu l'as blessé à Maëlle. Et puis par contre, tu lui diras, Maëlle, si la prochaine fois que tu me mets une gifle, j'irai dire à ma maîtresse. Vous savez, il y a cette joue qu'on présente, cette joue... humaine, cette joue du vieil homme qu'on présente, et qui mérite parfois des coups. Ça peut être pas forcément des coups au visage, mais il y a l'autre joue que le Seigneur nous a donnée. C'est toujours de l'amour, c'est de la joue du pardon qu'on peut aussi manifester à l'autre. Et peut-être que ce ne sera pas la claque qui viendra, mais ce sera peut-être quelqu'un qui viendra se confier finalement. C'est quelqu'un qui est de notre entourage, avec qui ça s'est mal passé. Et puis du fait de voir cette attitude en nous, cette disposition de cœur à aimer, à vouloir se réconcilier, à vouloir plus pour l'autre, eh bien, ça amènera à trouver la faveur de Dieu pour cette personne. Et ma fille, elle a fait cette expérience. Et le soir, elle est rentrée. « Papa, je suis allée demander pardon à Maëlle. » Et ça s'est bien passé. On est de nouveau copines. Merci Seigneur. Mais je lui ai dit aussi, la prochaine fois, je dirai à la maîtresse. Mais c'est beau quand un simple enseignement du Seigneur qui paraît difficile, qui paraît terrible, humainement parlant, oui, mais les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et c'est une ordonnance de Dieu pour nous, pour aimer notre prochain, pour vivre, comment dire, avec ceux qui nous entourent, pour leur tendre une autre joue, un autre visage, quelque chose qui amène à se fixer sur Dieu. Verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Verset 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Amen. Amen. C'est la parole de Dieu, encore une fois. C'est la parole du Seigneur Jésus. Mais moi, je vous dis, bénissez vos ennemis. Voilà la solution pour nous ce soir. Nous, peut-être, qui traversons un moment difficile avec les voisins, avec les connaissances proches. Seigneur, je n'ai rien fait pour ça. Mais apprenons à bénir. Apprenons à bénir ceux qui nous font du mal. Apprenons à leur faire du bien dans la prière. Seigneur, déjà, je vais me mettre à genoux et je veux bénir. Tout ça toujours avec cet arrière-plan, ce verset, ce passage de l'Apocalypse. Nous voyons cette église qui est tiède et qui sera vomie de la bouche du Seigneur. Et nous ne voulons pas être vomis de la bouche du Seigneur. Alors acceptons que cette parole travaille dans notre cœur. Acceptons-la dans sa plénitude. Ce soir, ce n'est pas facile de l'entendre peut-être, mais prenons-la avec nous, amenons-la chez nous. Laissons cette parole comme une graine faire son travail dans notre cœur. Laissons-la grandir, mûrir, et elle portera du fruit. Du fruit, non pas pour ce monde, mais jusque dans l'éternité. Apprenons à bénir notre prochain. Et je vous le dis, certains peuvent le dire aussi, on a appris souvent à bénir, et que Dieu nous garde ça, mais on a appris souvent à bénir à genoux en pleurant nos ennemis. Et c'est vrai que le Seigneur nous attend dans un endroit particulier. Chapitre 6, verset 1. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Verset 6. « Mais quand tu te pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce verset nous parle de notre piété. Comment vivons-nous notre piété actuellement? Quelle est notre relation avec le Seigneur? Comment se traduit cette relation? Nous avons chanté, nous t'aimons Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Mais j'aimerais dire, parfois c'est facile dans un lieu comme ça de dire ces paroles parce qu'on est pris. Mais dans le lieu secret, dans notre vie de tous les jours, comment nous vivons ces choses? Est-ce que le Seigneur nous trouve toujours derrière la porte, dans la chambre, dans le secret? Le Seigneur veut nous y trouver. Amen. Nos motivations profondes devant le Seigneur. Chapitre 6, verset 32, la fin du verset. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin de ces choses matérielles, du vêtement, du manger, du boire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Je me rappellerai toujours, quand je suis venu à l'église, la première fois que je suis venu à l'imposition des mains, on m'a dit, alors que je voulais une bénédiction particulière, dans un domaine particulier, on m'a dit, je vous tairai le nom de la personne qui m'a dit ça, mais suivez mon regard. Brice, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses que vous cherchez, vous les aurez par-dessus toutes. Vous les aurez ensuite. Je ne sais plus très bien comment il avait fini, mais en tout cas, cette parole était là. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose, mais cherchez Dieu. Chercher Dieu, ben c'est une parole qu'il nous faut prendre avec nous et l'amener chez nous. Chercher Dieu. Et dans cette recherche, le Seigneur nous amènera à vivre des expériences, à vivre des choses avec lui. Et ce qui nous manque, le Seigneur nous comblera. Oui, merci Seigneur, parce que nous pouvons encore te chercher. Cherchons le royaume de Dieu et sa justice encore aujourd'hui. J'abrège vraiment parce que ça passe. Verset, chapitre 7, verset 12. Et on arrive vraiment à la chose la plus importante. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Ce passage nous rappelle que le chemin avec le Seigneur, ce n'est pas facile. Et parfois, on peut s'égarer. Moi, le premier, par les choses matérielles, par certaines façons de penser. On peut se laisser, emporter par une façon de penser selon le monde, etc. Et puis, le Seigneur nous rappelle que le chemin avec lui est resserré. Et cela nous garde, frères et sœurs. Qui a déjà fait une excursion, une randonnée en montagne, quelque chose, hein? Un petit sentier là qui longe, un parapet, une falaise. Mais on sait une chose, frères et sœurs, on sait une chose, c'est que si on se donne la main, le chemin est peut-être resserré, mais si on se donne la main, si on s'écoute, si on écoute les conseils, on sait qu'on passera de l'autre côté. Voilà ce que je veux vous dire, c'est que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, il ne s'agit pas simplement de morale ici, mais c'est aussi d'une attitude spirituelle. Peut-être que nous sommes arrêtés en route en ce moment, que nous avons cessé de prier pour les frères et sœurs, prier pour l'Église persécutée. Peut-être qu'on a perdu cette vie d'intercession, le bien que l'on peut faire à autrui dans la prière, par autre chose aussi, par nos visites, par un comportement, par plein de choses. Peut-être qu'on l'a oublié. Mais s'aider les uns les autres, se supporter les uns les autres, aider son prochain, ça fait partie de la marche chrétienne. Et on sait que si on cède, tout le monde passera de l'autre côté. Et on a besoin tous de passer de l'autre côté. En excursion, ça ne viendra pas à l'idée de dire, mais écoute, tu restes de l'autre côté, nous on continue sur 900 mètres, hein, et toi tu restes là, et puis on reviendra dans 10 heures, et puis tu resteras là. Non, on a envie que tout le monde arrive au bout. Que le Seigneur renouvelle en nous la vision que nous sommes son peuple ici-bas. Et nous ne sommes pas tout seuls. Et que quand moi je suis peut-être dans un moment difficile, eh bien je sais qu'il y a les frères et les sœurs qui prient pour moi. Eh bien en retour, Seigneur, je veux aussi prier pour ceux qui en ont besoin. Et même ceux qui peut-être tiennent debout maintenant, mais qui ne savent pas qu'ils vont passer par des moments difficiles. Comme le Seigneur lui-même a dit, Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi. Parce que le Satan vous a réclamé pour vous cribler. Et on a besoin de prier. Et comme cette image de Moïse dans cette embarcation qu'avaient ses parents, bien protégée là, on a besoin de se faire cette muraille spirituelle, de prier les uns pour les autres, de se faire du bien dans la communion fraternelle, dans la prière, dans des moments d'intercession ensemble, dans les moments de joie aussi. Mais on a besoin d'être ensemble. On a besoin de se faire du bien ensemble. Faites ce bien les uns pour les autres. Et encourageons-nous à toujours rester sur le chemin resserré. Parce que c'est vrai, c'est un chemin resserré, mais c'est sur ce chemin-là que le Seigneur bénit. C'est sur ce chemin-là que le Seigneur nous donne de faire des expériences avec lui. C'est sur ce chemin-là que se présentent les combats. Sur le chemin large, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de lutte. Tout coule, tout coule. Mais ça coule vers la perdition. Mais sur ce chemin resserré, le chemin y monte. Le chemin, il monte vers le ciel. Le chemin, il est là pour nous. Et c'est vrai qu'il y a des efforts à faire, mais le Seigneur nous renouvelle. Et c'est là qu'on expérimente sa consolation, qu'on expérimente que le Seigneur est bon, que Dieu est tout-puissant, que Dieu est fidèle, que Dieu est amour, que Dieu nous fait du bien. Et on a besoin d'être sur ce chemin resserré. Comme l'a dit David, tu es, Seigneur, cette lumière sur mon sentier. Tu es vraiment cette lumière, Seigneur, sur mon sentier. Le sentier, parfois, il est resserré. Mais tu es là, tu me fais du bien, tu m'éclaires, tu me renouvelles. Amen. Et on va terminer par ce passage, avant de terminer, pardon, le verset quand même 21 qui est important. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a là, après ce long sermon sur la montagne, il y a là les choses importantes que le Seigneur va dire. Il y a un rendez-vous qui est fixé. Et c'est lui qui le dit, le Seigneur. Il est là sur la terre, mais il parle de l'éternité. Il dit, tous n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Sous-entendu, il va y avoir un moment où il faudra passer dans l'éternité. Il y aura un moment où nous passerons devant Dieu. Et ce moment, c'est le moment le plus important, frères et sœurs, amis. Et comment nous allons vivre ce moment, c'est comment nous vivons aujourd'hui, notre foi. Avons-nous accepté Jésus-Christ? Avons-nous accepté son salut? Avons-nous fait cette expérience de Jésus sur la croix qui nous pardonne nos péchés? Avons-nous fait cette expérience de la vie nouvelle en Christ qui est ressuscité, qui n'est pas resté dans le tombeau, mais qui est vivant au siècle des siècles? Et avons-nous vécu la communion avec ce Seigneur ressuscité? Je ne vous ai jamais connu. Et se connaître nous parle d'intimité avec Dieu. Nous ne parle pas de connaître, comment dire, je connais un tel, je sais qu'il a telle et telle fonction, enfin je ne sais pas très bien, mais je le connais. Non, c'est je te connais. Nos proches, nous les connaissons. Ils peuvent être à 10 000 kilomètres, mais parce que nous avons vécu avec eux, parce que nous avons partagé avec eux, parce que nous savons comment ils réagissent, parce que nous savons comment nous avons une interaction avec eux, nous savons comment ils réagissent. Et ils peuvent être à 10 000 kilomètres, nous les connaissons. Et Dieu nous connaît. Et Dieu veut nous connaître. Dieu veut nous connaître dans une intimité profonde. Et si nous ne sommes pas connus de Dieu dans cette intimité profonde, nous serons rejetés. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur Jésus. Dieu veut nous connaître. Alors mon frère, ma sœur, peut-être que tu es bouillant. Je l'ai été, tu es tiède. Et je l'ai été tiède par ce manque de communication, de communion avec ton Sauveur, avec ton Seigneur. Mais il nous faut revenir à lui. Là, dans un moment comme ce soir, Dieu est fidèle pour nous pardonner tous nos péchés. Il est fidèle. Et ce soir, il est encore sur son trône de grâce, pour nous faire grâce. Mais attendons pas. N'endurcissons pas notre cœur, comme dit Hébreux. Mais repentons-nous ce soir. Et faisons-nous du bien en faisant la paix avec Dieu. Et en établissant tout à nouveau une communion avec lui. Et on termine par ce dernier, comment dire, cette image que donne le Seigneur. C'est la fin du sermon sur la montagne. Et il va dire la chose, vous savez, quand quelqu'un parle, la conclusion souvent est très importante. Oui ou non? Moi, je sais, quand je parle à mes enfants, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'ils laissent de côté, mais il y a le moment où ils disent « T'as compris ?» Et il sait que... Je parle, j'ai l'image de mon fils, là, il n'y a pas très longtemps. Et c'est important. Ce qu'on va lire, c'est la chose peut-être la plus importante. Verset 24. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, celles que le Seigneur vient de dire, et bien sûr, nous qui avons toute la Bible, toute la parole de Dieu, ces paroles que je dis et les mets en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les vents sont venus, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. » On conclut. Le Seigneur parle. Il y a ce sermon sur la montagne qui n'est pas valable, qui n'a pas été valable il y a 2000 ans. Il est valable maintenant. Et frères et sœurs, ce n'est pas facile. Si on est honnête, tout ce qu'on a lu, est-ce que c'est facile, humainement parlant? Franchement, pardonner alors qu'on nous a fait du mal, aimer ses ennemis, être la lumière du monde, être le sel de la terre, quel haut degré d'exigence, haut degré de sainteté, haut degré de comportement, d'attitude spirituelle, de communion. Demandez et vous recevrez, et c'était assez dit juste avant, verset 7 du chapitre 7. Frères et sœurs, on a besoin, je crois, tout à nouveau de s'humilier dans la présence de Dieu et dire « Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. » Et nous ne voulons pas être de ceux qui sont tièdes, qui disent « Je n'ai besoin de rien. » Mais en la lumière, Seigneur, de ce que tu nous dis encore ce soir, de ce qu'est l'évangile, de ce qu'est le royaume des cieux. C'est ça le royaume des cieux. C'est un royaume qui est complètement à l'opposé de ce qu'on vit actuellement. Là où les hommes disent « Eh ben, à ton ennemi, il faut l'enfoncer. » Dieu dit « Bénis ton ennemi. » Là où on dit « Ben, le faible, il ne vaut rien. » Le faible, il compte pour valeur, comment dire, négligeable. Le Seigneur dit « Tu as de la valeur à mes yeux. » Je vois dans ton cœur, je vois ce qu'il y a, je vois ce petit lumignon de la foi qui fume, que je veux tout à nouveau aviver, fortifier. Et ce soir, Seigneur, sur ta parole, je veux mettre ma confiance en toi. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, mais Jésus nous donne la solution. Entre dans ta chambre, prie, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Béni soit Dieu parce qu'il ne nous laisse pas sans la solution. Verset 7 du chapitre 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dans un autre passage, Luc 11, verset 9. Luc 11, et on va terminer là-dessus. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 13. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et voilà ce à quoi, je le crois, le Seigneur veut nous amener, à capituler. Voilà ceux qui sont vainqueurs. Voilà comment être vainqueur. Entendre la parole de Dieu, entendre la parole de Jésus, et bâtir sa vie sur cette parole, la mettre en pratique. Bâtir, dans le fait de bâtir, il y a le fait conceptualiser, de mettre en place la maison sur des plans, etc. Donc il y a une réflexion. Et puis il y a l'action. On entend la parole, on entend Jésus qui frappe, mais il faut ouvrir la porte. On entend le Seigneur qui parle à notre cœur, mais il faut mettre notre confiance en lui. On entend le Seigneur qui nous conseille d'avoir un certain comportement, c'est à nous d'obéir. Parce que lui, il a fait le premier pas, il a tout fait. Il est mort sur la croix pour nous donner la victoire, pour nous pardonner, il est ressuscité. Cette résurrection, il veut nous la faire partager. La force de la résurrection, il veut nous la donner. Cette vie nouvelle en lui. Et béni soit Dieu, quand on se met à genoux, on reçoit cette force. Qui peut dire, oui, j'étais fatigué, et tout me semblait noir, mais je me suis mis à genoux, tout me semblait habituel, traditionnel, mais je me suis mis à genoux, Seigneur, je t'ai cherché, et tu m'as renouvelé, et tout à coup le zèle est venu, tout à coup ma vision, elle était rafraîchie, tout à coup, Seigneur, les choses ont paru plus faciles, tout à coup, les choses ont été là plus claires, le chemin était plus, j'ai réalisé que le chemin était finalement si simple. C'est comme quand on est en avion, on prend un décollage, et puis le lac qui nous semblait si grand à nos yeux, eh bien, c'est un petit point sur l'horizon, c'est pas grand-chose. Et la difficulté, eh bien, elle est annihilée parce qu'on est dans la présence de Dieu. Et on se rend compte que Dieu est avec nous. Frères et sœurs, on a besoin de quelque chose. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour être vainqueur sur ce monde. Parce que charnellement, on ne pourra pas. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Cherchons la marche par l'Esprit. Et nous ne serons plus tièdes. Nous vivrons dans la grâce de Dieu. Nous vivrons vraiment d'expériences que Dieu a préparées pour nous. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour nous, elle est bonne, agréable et parfaite, n'en doutons pas. Et si on a un effort à faire, ben, remettons-nous à genoux. De tout notre cœur. Non pas pour se mettre à genoux. Non pas pour pleurer. Non pas pour, être hypocrite. Mais écoutons le Seigneur. Il a fait le constat. Il y aura un rendez-vous dans le ciel. Il y aura un moment où on passera devant lui. Mais celui qui a bâti sa maison sur ses paroles, celle ou celui qui a bâti sa maison sur ses paroles, sa maison, c'est-à-dire sa vie, et bien cette maison, elle traversera la mort, elle traversera l'éternité, et cette maison, elle sera établie dans la maison de Dieu. Oui ou non ? Répondons en notre cœur. Je crois que le Seigneur peut, au travers de ce moment, montrer à notre esprit, ce qui est tout à nouveau possible d'être vécu avec Dieu. Parfois, on s'est mis des œillères, parfois on s'est mis des limites, on s'est dit, voilà, moi j'ai vécu mes expériences, c'était bien, merci Seigneur, maintenant j'ai une vie, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et on oublie que Dieu est un Dieu de grâce. On oublie que Dieu veut nous faire grâce chaque jour. On oublie que la vie est un combat, qu'il y a des moments qu'il faut lutter. De toute façon, obéir à Dieu, ça nous amène à lutter. Obéir à Dieu, si on veut aimer son prochain, ça nous amène à être à genoux et lutter pour recevoir de l'amour. Parce que l'amour, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut le donner. Il n'y a que Dieu qui peut donner l'amour pour son prochain. On ne peut pas le donner comme ça. On n'a rien pour nous. Ce qu'on a reçu, on a reçu de Dieu. Et ce soir, c'est un encouragement. Ce soir, c'est un encouragement à redevenir bouillant en retrouvant cette communion avec Dieu, la communion avec ses paroles, la communion avec ce qu'a dit le Seigneur. C'est ce qu'a dit le Seigneur au travers de ses prophètes dans l'Ancien Testament, au travers de ce que lui a dit, au travers de ce que ses apôtres ont dit, au travers de ce que l'apôtre Paul a dit, au travers de ce que même ses serviteurs actuels annoncent. Seigneur, je veux retrouver cette vie avec toi. Cette vie, la vraie vie, c'est ça la vie, Seigneur. C'est être avec toi tous les jours. C'est être avec toi. C'est recevoir de toi cette vision fraîche. On va s'incliner et prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Nous ne mesurons pas, Seigneur, que ta parole, elle est véritablement la vérité. Elle est véritablement cette lumière, Seigneur, sur notre sentier. Oh Seigneur, éclaire les yeux de notre cœur, comme nous dit ce chant. Seigneur, nous voulons prendre ce collier. Nous ne voulons pas te dire, Seigneur, ouvre nos yeux. Nous voulons te dire, Seigneur, je veux m'appliquer ce collier de la parole de Dieu sur les yeux de mon cœur, Père. Accorde-nous, Seigneur, cette possibilité encore ce soir de prendre ta parole avec nous, Seigneur. Et comme Samuel, de ne pas la laisser tomber, Seigneur Jésus.
de la prendre avec nous, de lui laisser une chance dans nos vies, Seigneur. Et pour nous qui marchons avec toi, Seigneur, nous voulons ne pas vivre selon des habitudes, des traditions, mais Seigneur, nous voulons expérimenter encore que tu es bon. Oui, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu veux guérir, tu veux sauver, tu veux baptiser dans le Saint-Esprit. Tu n'as pas changé, Seigneur. Et certainement, le problème vient de nous. Alors nous voulons nous repentir, Seigneur, te demander pardon et nous attendre à toi encore ce soir. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Amen.